7 heures.
Le journal de 7 heures.
Marthe Cacou.
Nous sommes le jeudi 25 avril 2019. Sans plus tarder, voici les faits majeurs. Amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural dans 3 districts de la Côte d'Ivoire. Financement de la filière cacao, système national de la métrologie. Ces préoccupations et bien d'autres étaient au centre du Conseil des ministres hier. Tout à l'heure, le compte-rendu sur la science du travail qui s'est tenu à Yamoussoukro. Juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets relatifs à la paix sociale, au dialogue et à la réforme de la CEI ont été abordés par les deux parties. Dans un instant, les explications du chef canton des Akouins. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Zéro palugement-gage, c'est le thème de la manifestation. Situation politique en République démocratique du Congo, l'opposition boycotte l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Suivra après l'actualité internationale la revue des titres des journaux avec Souleymane Katier et pour finir l'invité de la rédaction qui est le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, Atoum Thomas Tchakbele, présentera notamment les opportunités qui s'offrent aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu hier au siège de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. La science du travail a adopté plusieurs mesures visant l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. La synthèse avec vous, Radi Razak Wilfried.
En vue du financement du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural, le conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 27 milliards de francs CFA entre la BAD et la République de Côte d'Ivoire. Sidi Touré, porte-parole du gouvernement.
Ce projet d'envergure couvre 3 districts, à savoir le district des Savanes, le district du Zanzan, le district du Woroba. Ce projet permettra d'installer notamment 2027 km de lignes électriques aériennes et d'effectuer 23 549 branchements et de poser 22 960 foyers d'éclairage public.
Dans le secteur agricole, le gouvernement a adopté un autre décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 3,750 milliards de francs CFA auprès du Fonds africain de développement pour financer la filière cacao. Sidi Touré.
L'objectif global de ce projet est de renforcer la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer des revenus importants aux producteurs.
En ligne avec la réglementation communautaire de l'espace UMOA et les évolutions internationales de la métrologie, le Conseil a aussi adopté un projet de loi relatif au système national de la métrologie en Côte d'Ivoire. Sidi Touré, porte-parole du gouvernement.
Le projet de loi définit les unités de mesure légales utilisables en Côte d'Ivoire et les modalités de leur utilisation.
Au cours de ce même conseil, les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été nommés. Yamoussoukro, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
Juste après le Conseil des ministres, le président ivoirien s'est entretenu avec les membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La rencontre a eu pour cadre le siège de l'institution à Yamoussoukro. Au nom de cette chambre, le chef canton des Akouais fait ici le point des discussions. Écoutez plutôt les explications de Nana Boigny Ndri III au terme de la rencontre.
Les rois et chefs sont les garants de nos us et coutumes et de nos traditions. Nous avons donc dit à son Excellence le Président de la République toute notre disponibilité à l'accompagner dans la construction de cet Ivoirien nouveau. Nous avons aussi réaffirmé notre détermination à continuer notre travail quotidien qui consiste à maintenir la paix sociale, tant il est vrai que tout effort de développement ne peut s'avérer efficace que si la paix sociale est maintenue. Dans sa réponse, le président de la République s'est exprimé concernant ses relations avec son frère aîné, le président Henri Konan Bédié. Il nous a bien précisé qu'il n'y avait aucun problème relationnel entre eux. Simplement, la politique est quelque chose qui évolue et que le président Bédié pouvait revenir quand il le souhaitait. Il a dit encore que Soro restait son fils. Il a aussi évoqué le problème de la commission électorale indépendante. Le président de la République nous a affirmé qu'il restait ouvert au dialogue. Il a donné des instructions à son Premier ministre pour poursuivre, maintenir le dialogue. Et il nous a demandé de jouer notre rôle de relais, de retourner vers les personnes dont nous sommes les représentants au sein de la Chambre et de leur transmettre ce message de réconfort, de quiétude, de paix qu'il nous a délivré.
C'était Nana Boigny Ndré III, chef canton des Akoué. Culture et crise sociopolitique en Afrique, quelle alternance transgénérationnelle à visage humain. Cette thématique a réuni hier matin à Abidjan la presse et le responsable de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Le professeur Amoy Urbain a souligné dans son intervention la contribution qualitative que pourraient avoir nos valeurs culturelles dans la résolution des conflits. En Afrique, nous l'écoutons.
Nos mécanismes traditionnels de prévention de conflits existent. L'Afrique existe. Nous sommes allés à la rencontre de l'autre en n'enseignant même pas ce que nous sommes véritablement dans nos écoles. L'une des hypothèses que nous avons observées, c'est que justement, tant qu'on n'aura pas identifié les fondements culturels d'un État moderne, ce sera difficile pour nous. Nous irons à la rencontre de l'autre les mains presque vides parce que nos spiritualités ont été bafouées de notre continent. Donc c'est la culture et les crises sociopolitiques, puisqu'en fait, les crises ont plusieurs fondements.
Et ça, vous pensez que nos valeurs culturelles peuvent nous permettre de procéder à un rattrapage à ce niveau, de corriger aussi?
Tant que ce sont des valeurs, oui, mais pas toutes les pratiques. Parce qu'en fait, dans nos pratiques, il y a des pratiques surannées qui ne sont pas à promouvoir. Mais tant que ce sont des valeurs, c'est-à-dire ce qui peut permettre de faire de la modélisation, eh bien, il faut aller vers ces valeurs, les promouvoir et servir cela comme recette aux générations futures et montantes.
Le professeur Amoy Urbain, responsable de l'université Charles-Louis de Montesquieu, il était avec Aoussi Potin. A noter aussi que le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, est attendu cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Il aura un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République au plateau, c'est-à-dire à 17h. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée aujourd'hui. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème de la manifestation. Après plus de 10 années de progrès réguliers dans la lutte, on constate désormais une stagnation des progrès. Selon le dernier rapport sur le paludisme dans le monde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aucun progrès significatif n'a été accompli en matière de réduction des cas de paludisme. Entre 2015 et 2017, on estime à 435 000 le nombre de décès dus au palu en 2017, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Il est donc urgent d'agir pour relancer l'action mondiale contre le paludisme et c'est au pays les plus touchés par cette maladie qu'il appartient de s'approprier ce défi. La 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se sont ouvertes hier à Abidjan pour se refermer ce vendredi. Des journées annuelles qui sont placées sous l'égide de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels et sous la présidence du ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale. Le compte-rendu est signé Jean-Claude Mabéa.
L'objectif de cette double commémoration avec le professeur Yeboué Kwame Yves, directeur de la prévention et promotion de la santé au travail de la CNPS.
Chaque année, à l'approche du 1er mai, ce sont des manifestations qui sont organisées pour attirer l'attention des décideurs et de l'ensemble de la population sur les questions de santé et sécurité au travail. Car nous allons au travail pour gagner notre vie et non pas pour la perdre. Or, il se trouve que sur les lieux du travail, nous sommes confrontés à des accidents et à des maladies qui peuvent donc porter préjudice à la vie des travailleurs.
Il a ensuite dressé un état des lieux de la législation sur la santé et la sécurité au travail en Côte d'Ivoire.
La législation en matière de santé et sécurité au travail a beaucoup évolué. Nous pouvons dire que la législation comporte un pôle de prise de texte juridique et à ce niveau, il y a eu la ratification de 3 conventions de base de l'OIT et ces 3 conventions de base sont répercutées dans notre code du travail. On peut donc dire qu'aujourd'hui, le dispositif juridique que nous avons permet de bien prendre en charge la santé et la sécurité des travailleurs.
Traoré Salimata, chef de département sécurité au travail de la direction de la CNPS, revient ici sur le rôle et l'importance en entreprise de la fonction sécurité au travail.
On sait que dans toute activité, il y a des risques. Et c'est pour ça que le législateur a préconisé des dispositions à l'attention des employeurs pour éliminer les risques qu'il y a dans l'environnement de travail.
Dans cet élan, la CNPS est donc engagée dans une campagne Vision Zéro pour promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être au travail.
Enseignement primaire et secondaire, les discussions entre les représentants du ministère de l'Éducation nationale et les syndicats, négociations qui ont été lancées le 10 avril dernier, se sont achevées la semaine dernière à Grand Bassam. Lundi, le porte-parole de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire était face aux journalistes à Abidjan pour faire le point des discussions après un mois de sursis donné au gouvernement ivoirien à la suite du mouvement de grève observé du 22 janvier au 23 mars. La COSEFC dit noter à l'issue de cette phase de discussion des points de convergence, de même que plusieurs points de divergence. On écoute les précisions de Pacom Atabi.
À l'issue des 4 jours de discussion que nous avons eues avec l'administration à Grand Bassam, nous sommes restés sur notre faim quant aux réponses que l'administration a apportées à nos revendications. En ce sens que les représentants de l'administration n'avaient pas l'autorité de leur mandat à décider de réponses concrètes à nos revendications. Tout ce que nous avons fait a consisté à un exercice de relecture de nos revendications et la synthèse de cette relecture sera portée au Premier ministre qui, en dernière instance, décidera. Nous avons donc interpellé l'opinion nationale, la communauté internationale et surtout les institutions qui avaient joué la médiation auprès de nous et qui avaient pris ainsi des engagements à œuvrer au retour de la paix dans le système éducatif ivoirien. Nous attendons tous le 1er mai le discours du président de la République. Nous fondons grand espoir dans son discours, dans le sens bien évidemment de résolutions concrètes à nos préoccupations sociales. Et après quoi, nous irons à l'Assemblée générale le 8 mai prochain pour analyser son discours du 1er mai. En vue d'apprécier la situation qui prévaut et prendre les décisions qui s'imposent. Donc c'est à la base de décider de la reprise ou non de la grève. Ce n'est pas nous. Actuellement, il n'y a plus de salaire mis sous contrôle. Tous les comptes ont été dégelés. Cependant, nous notons des désagréments dans l'équilibre et la stabilité des comptes de plusieurs enseignants, eu égard au gel de ces comptes-là.
Propos de Pacom Atabi, porte-parole de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Le peuple Boni de Guyane effectue depuis lundi un circuit touristique en terre ivoirienne. Les 25 descendants d'esclaves participent à la première édition des journées mémorielles internationales de la route de l'esclave prévue du 21 au 26 avril. Après la visite à Boisseau lundi et mardi, la délégation s'est rendue à Tiassali, précisément dans le village de Kanga-Nyanzé, pour un rituel de purification. Témoin pour la radio de la paix, Didier Blé.
Une des danses patrimoniales les plus prisées chez les Akans de Côte d'Ivoire, c'est l'abodan. Les Boni de Guyane, eux, dansent l'awassa et les similitudes sont incroyables. La réaction de Kenza et Adaoudé, venus de Guyane.
C'était surtout touchant de voir qu'il y avait beaucoup de similitudes, surtout au niveau de la danse et des tambours.
Ça me rassure aussi de savoir que nous n'en avons pas si perdu que ça, malgré la distance et ce qui s'est passé.
L'étape du village de Kanga-Nyanzé, dans le département de Tiassalé, a été marquée au-delà des allocutions et des échanges de présents. Par le rituel de purification, la visite de l'ancien marché des esclaves et de la stèle érigée en juillet 2017 en mémoire des captifs. La présence de Boni à Tiassalé est faite d'émotion, nous dit un fils de la région.
Je suis Boni et Ouma Gilbert, c'est une chose qui est très forte. Nous ne savions pas que nous avions des parents de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut maintenant aller vers les Guyanes pour aller découvrir nos parents de l'autre côté.
Pour Serge Billet, journaliste et écrivain ivoirien qui a conduit cette délégation, il fallait marquer l'histoire.
Ce qui était important, c'est que nous comprenions que ces liens qui ont été distants avec l'histoire, on ne peut pas réparer la chose. En revanche, nous pouvons construire des liens entre nous, tout ce temps que nous avons perdu à nous méconnaître.
Cette semaine d'échanges culturels sera également marquée par un concert de l'artiste Boni Rickman, jeudi, mais aussi de l'exposition du sculpteur Adaoudé. La visite, elle, se poursuit ce mercredi à Yamoussoukro.
On prend la direction de la République démocratique du Congo où les députés de l'opposition ont boycotté hier l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale pour, disent-ils, protester contre la coalition majoritaire qui réunit les partisans du président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Mais la seule candidate en course, Jeanine Mabunda de la coalition pro-Kabila Front commun pour le Congo, a été désignée présidente de l'Assemblée nationale, rapporte l'AFP. Retour à l'actualité en Côte d'Ivoire avec la revue des titres des journaux de ce jeudi. Souleymane Kati, bonjour.
Bonjour Martiakou, bonjour à tous.
Plus d'un mois après l'élection d'Amadou Soumaoro, le bureau de l'Assemblée nationale n'est toujours pas connu.
Le bureau n'a pas encore été officiellement annoncé, mais assurément, il y a blocage si l'on en croit les titres des journaux de ce jour. Le rassemblement qui annonce que le RHDP se taille la part du lion propose la réaction de Yasmine Wonyen. Dans LG Info, on apprend que le RHDP fait main basse sur tous les postes. Le Nouveau Réveil parle de graves erreurs de Soumaoro quand le quotidien d'Abidjan écrit Amadou Soumaoro accusé de violer les textes. La presse s'intéresse également de près aux activités de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Génération Nouvelle, qui parle de son projet de candidature à la présidentielle de 2020, présente comment Soro va gouverner le pays. Sa priorité, nous dit le journal, sera de rapprocher l'argent des populations. Le quotidien d'Abidjan tente de montrer comment la tournée politique de Soro a sonné le glas du régime. Le sursaut affiche après l'appel de Daoukro. Voici l'appel de Dabakala. Et enfin, Soir Info nous apprend que quelque chose se prépare contre Guillaume Soro. L'autre sujet en une de vos quotidiens de ce matin, le Conseil des ministres tenu hier à Yamoussoukro. L'expression annonce d'importantes nominations. On en sait un peu plus dans le mandat qui affiche de nouveaux PCA à la Poste et au BNET. Encore plus explicite, la Gazette nous apprend que Ala Kwadiorémi et Denis Kazi sont remplacés par Samba Koulibaly et Ngouan Aka Mathias. L'Inter y voit une connotation politique et écrit que Ouattara frappe le PDCI. Et enfin, le Nouveau Réveil, rendant hommage à son fondateur, écrit « Après 8 ans de loyaux services, Kazion s'en va ». Du côté du Front Populaire Ivoirien, on prépare la prochaine fête de la liberté, prévue à Duékoué dans le Grand Ouest. En attendant, les responsables du parti mobilisent leurs troupes. LG Info nous apprend qu'à 24 heures de la fête de la liberté, le FPI fait les derniers réglages. Le temps annonce que tout est fin prêt pour la grand-messe. En une de Soir Info, c'est Simone Gbagbo qui exulte. Le président Gbagbo va revenir et nous irons ensemble à danser à Gagnoua. C'est encore l'un de ses propos que l'on retrouve en une de l'Inter où elle annonce en 2020, le miracle sera effectif.
Souleymane Katié qui reviendra à 8 heures pour la même activité. L'invité de la rédaction pour refermer ce journal est le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Atoum Thomas Tchakpele a animé une conférence inaugurale à l'occasion de la 2e édition du Forum des jeunes des SOS Villages d'enfants. Il présente ici le programme et les opportunités qui s'offrent aux jeunes de Côte d'Ivoire pour leur insertion socio-professionnelle et pour leur contribution au développement de leur pays. L'entretien est conduit par Jean-Claude Mabia.
Thomas Atoum Tchakpele, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme-là?
C'est un programme initié conjointement par le gouvernement ivoirien, le PNUD et le programme VNU. Donc, il a pour principal objectif de travailler à la participation à l'inclusion des jeunes, donc par leur mobilisation sur les missions d'intérêt national ou public.
De façon simple et claire, qu'est-ce que ce programme fait concrètement pour les jeunes?
Voilà, de façon simple, ce programme travaille à la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que pour que la Côte d'Ivoire, si nous voulons utiliser le paradigme aujourd'hui qui est développé, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire émergente, elle ne peut pas être émergente sans la contribution de tous, et particulièrement les jeunes qui font près de 77% de la population active. Donc il est important de trouver des créneaux qui permettent à ces jeunes d'apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Donc le programme s'insère comme un outil dans ce sens. Donc au-delà d'un simple programme qui travaille à mobiliser, à faire participer les jeunes, c'est un outil qui est mis à la disposition des sectoriels de tous les ministères qui peuvent s'appuyer sur cet outil pour atteindre des résultats dans le cadre de leur stratégie sectorielle.
En termes d'action, qu'est-ce que ce programme a déjà fait sur le terrain?
En fait, le programme, sa principale action, c'est de mobiliser les jeunes. Mais le travail de mobilisation est tout un processus. D'abord, ils travaillent à faire candidater les jeunes. Ensuite, ils les organisent, c'est-à-dire ils sont sélectionnés, ils sont interviewés, ils sont formés et ensuite, ils sont envoyés en mission. Mais les missions, ce n'est pas sur toutes les missions qu'un volontaire intervient. Donc, ces missions doivent respecter les principes du volontariat. Donc, le volontaire ne peut pas aller, par exemple, occuper un poste salarié. Le rôle du volontaire, c'est d'apporter un appui, peut-être à des salariés, pour atteindre rapidement des résultats. Le volontaire n'est plus mobilisé pour une activité récurrente, c'est-à-dire qu'une activité qu'on fait chaque jour. Le volontaire est porteur d'un changement social. Son intervention doit apporter un plus dans la structure dans laquelle il va intervenir.
Depuis 2016 que vous êtes dans la phase pilote, y a-t-il des jeunes volontaires qui ont bénéficié de ce programme?
Aujourd'hui, nous avons, en fin 2018, sur la période 2017-2018, nous avons fermé près de 850 jeunes. Et sur les 850 jeunes, 600 ont pu participer aux missions de volontariat de 6 mois à 1 an. Donc, c'est des jeunes qui ont travaillé dans beaucoup de domaines. Ils ont travaillé dans le domaine environnemental, dans la protection de l'enfant, dans la protection de la femme, dans les questions liées au juridique, au niveau communautaire. C'est des jeunes qui ont fait un travail extraordinaire. Nous avons déjà une brochure qui essaie de valoriser ce travail-là.
Et quelles sont les zones d'intervention de ce programme?
Voilà, pour la phase pilote, on a la région de Tongpi, la région du Béké et le district d'Abidjan.
Vous avez animé une conférence inaugurale et l'un des concepts qui est ressorti, c'est la résilience des jeunes. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce concept avec vous?
La chose qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, nos pays, et particulièrement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi facile pour un jeune de pouvoir s'insérer. La résilience tourne autour de la capacité de ce jeune à pouvoir saisir les opportunités ou à passer ses difficultés d'insertion pour pouvoir s'insérer. Donc, un forum avec un tel thème est le bienvenu parce que ça nous permet de nous questionner sur la capacité de nos jeunes à pouvoir s'en sortir aujourd'hui. Parce que l'insertion dont on parle des jeunes partout, elle ne dépend pas seulement de l'État ou du gouvernement, elle est également liée à la capacité du jeune. Même si le pays a un rôle à jouer dans cette capacité, le jeune a le premier rôle.
Quel est ce rôle?
Il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui qui va dire qu'il ne développe pas des initiatives. C'est le rôle du gouvernement de réfléchir, de proposer des initiatives qui puissent permettre à ces jeunes d'en profiter. Mais le gouvernement ne veut pas aller chercher chaque jeune dans sa maison. Il y a des dispositifs qui sont développés. C'est aux jeunes maintenant d'aller vers ces dispositifs, de s'informer. Je ne dis pas qu'on peut trouver toutes les solutions, mais la plupart des jeunes trouveraient solution s'ils approchaient.
Quels sont ces dispositifs qui sont disponibles aujourd'hui pour ces jeunes?
La Côte d'Ivoire a une grosse agence, l'Agence pour l'emploi jeune, qui développe plusieurs programmes, des programmes de stage, des programmes de premier emploi, des vastes programmes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces jeunes qui disent qu'on n'a pas d'emploi, on n'a rien à faire, on n'a pas d'occupation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire donc pour pouvoir être utiles pour le développement de leur pays?
Vous savez, ce qui est un peu bizarre dans nos pays qui sont des pays pauvres, c'est que nous sommes des pays pauvres, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. C'est bizarre qu'on dise qu'on ne trouve pas du travail dans des pays où il y a beaucoup à faire. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est le travail salarié. Le travail salarié ne doit pas être fait en soi. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Donc, aux jeunes, comme je le dis toujours, de saisir ces opportunités, de regarder. Tous ne peuvent pas être insérés, mais il y a d'autres opportunités. Les jeunes doivent au moins s'essayer également à l'auto-emploi. Donc, identifier leurs compétences, voir de quoi ils sont capables, voir qui a besoin de ce que je sais faire, de ce que je connais, pour pouvoir maintenant, moi aussi, m'insérer. Donc, c'est tout un travail, c'est assez complexe, mais c'est un effort qu'on doit demander d'abord aux jeunes avant de faire face peut-être à l'État, c'est de voir quels sont les efforts que moi-même je fournis pour pouvoir m'insérer. Parce que c'est pas très intéressant tout de suite de rendre responsable le gouvernement tant que nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort. Donc c'est de ça que je veux parler en disant que les jeunes doivent saisir les opportunités. Même si elles ne sont pas nombreuses, beaucoup restent, ils perdent leur temps, or ces opportunités sont là. J'ai donné le site du programme national de volontariat, c'est-à-dire c'est un site sur le volontariat, volontariat.jeunesse.gouv.ci, c'est-à-dire là le jeune va s'inscrire pour pouvoir participer au programme national de volontariat. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de sites qui parlent des questions de l'emploi.
Thomas Atoum, je vous remercie.
Merci également pour cette opportunité.
L'invité du jour, le coordonnateur du projet pour la mise en place du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, se prêtait aux questions de Jean-Claude Mabia. Et pour clore, le rappel de l'essentiel. Amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural dans 3 districts de la Côte d'Ivoire. Financement de la filière cacao, système national de la métrologie. Ces préoccupations et bien d'autres étaient au centre du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu à Yamoussoukro. Juste après la séance de travail, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets relatifs à la paix sociale, au dialogue et à la réforme de la CEI ont été évoqués par les deux parties. Enfin, situation politique en République démocratique du Congo. L'opposition boycotte l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale.